Elle voulait d'abord écrire, être des écrivains, vraiment. Elle voulait pas être des femmes auteurs, du tout. Parce que c'était très dépréciatif à l'époque. Et puis d'autre part, elle voulait gagner leur vie. C'était très important pour George Sand, je pense pour George Eliot aussi. Et au fond, pour les femmes de leur milieu, c'était pas tellement facile de trouver un travail. Et écrire, piocher, comme disait George Sand, c'est une manière d'être absolument indépendante. Je n'ai jamais eu de maître, même en amour, disait George Sand. Et cette idée d'indépendance fondamentale, je crois que les deux Georges la partagent. Au fond, ces femmes qui étaient inégales, nécessairement, étant donné la société, ce qu'elles voulaient, c'était la liberté et l'égalité. Oui. Et comment conquérir l'égalité? Être un homme, faire comme un homme, c'était un moyen très important. Il me semble que les remettre en évidence, dire ce qu'elles ont été, ce que leurs combats ont été, c'est très important. Voir les difficultés qu'elles ont eues, ça a été difficile. Oui, je pense que ça vaut la peine. Et puis, peut-être en avait-on le désir aussi. Et le désir, c'est important. Le désir, c'est important chez Sand comme chez Eliot, je crois.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 1919, dans le supplément littéraire du Times, Virginia Woolf commençait un article sur George Eliot en s'étonnant de l'indifférence dans laquelle l'auteur de Middlemarch était tombé à peine 40 années après sa disparition. Et pourtant, notait avec ferveur cette lectrice incomparable, ses livres nous offrent un festin somptueux, une réserve d'énergie et de chaleur que seuls nous procurent les grands écrivains créatifs. Injustement oubliée donc cette George Eliot, vénérée par Proust, admirée par Henry James, et qui est aujourd'hui citée, au même titre que Dickens, par une jeune écrivaine comme Zadie Smith, lorsqu'elle parle de ses modèles en écriture. George Eliot, née Marianne Evans, emprunta son prénom d'auteur à son aînée française, cette bonne dame de Nohant qu'elle admirait tant, pour son talent comme pour ses choix de vie. Elle aussi fut jugée scandaleuse par ses critiques de l'ère victorienne qui trouvaient ses romans peu conformes à l'idée qu'il se faisait de la littérature de dames. C'est vers 13-14 ans, grâce à son professeur de français, que Mona Ozouf commença à la lire, y comprenant déjà que la fiction, quand elle excelle, aide à mieux vivre et va plus profond que l'histoire pour nous donner à comprendre une époque. Aujourd'hui, elle lui consacre un merveilleux essai intitulé « L'autre Georges » paru chez Gallimard, qui devrait, normalement, remettre Eliot en haut des ventes de livres. Bonsoir Mona Ozouf.
Bonsoir Kathleen Eva.
Quel plaisir de parler de livres avec vous à nouveau. En tout cas, quand on vous a lu, on a déjà vu passer l'ombre de George Eliot dans Composition française, quand vous parlez de la bibliothèque de votre père, une bibliothèque de Bretons bretonnants, mais dans laquelle il y avait un livre de George Eliot, Daniel de Ronda, un livre assez mystérieux pour la jeune fille que vous étiez. Et ensuite, cette rencontre avec Le Moulin sur la Flosse, grâce à votre professeur de français, que l'on connaît aussi par Composition française, René Guillot, qui vous a mis ce livre entre les mains à une époque où les adolescentes, dont vous faisiez partie dans cette classe, avaient du mal à trouver des livres qui les aident à mieux vivre.
Oui, c'est en tout cas comme cela qu'elle nous a présenté George Eliot. Le nom ne m'était pas inconnu, puisque comme vous le rappelez, un des livres de George Eliot, du reste le plus mystérieux de ses livres, qui est un livre sioniste avant la lettre, tout à fait étrange. Ce livre figurait très mystérieusement dans une bibliothèque qui était vouée à l'adoration de la culture bretonne dans tous ses aspects. Pourquoi était-ce là? Je ne le sais toujours pas et je me reproche de ne pas l'avoir demandé à ma mère quand il était encore temps. En tout cas, le nom m'avait frappé, mais je n'avais aucune idée, évidemment, de l'auteur, que je prenais pour un homme, bien sûr. Et j'ai dû la rencontre véritable à René Guillot, qui était un professeur merveilleux, qui adorait les digressions, et qui pouvait partir d'un sujet tout à fait classique et aboutir dans des régions très éloignées, dont j'avais déjà entendu parler par ma mère, parce que ma mère avait eu la chance de l'avoir comme professeure à l'école normale d'institutrice de Saint-Brieuc, où elle avait déjà muni ma mère d'une bibliothèque assez peu conventionnelle pour, je connais maintenant, pour avoir travaillé sur l'école, je connais assez bien ce qu'il y avait dans les bibliothèques des instituteurs et des institutrices, il y avait fort peu de littérature étrangère. Or, ma mère avait une petite bibliothèque d'auteurs étrangers, parmi lesquels Dickens, Tolstoï, Tourguenieff, etc. Il n'y avait pas George Eliot, mais enfin, il y avait déjà cette littérature anglo-saxonne que Madame Guillou nous disait particulièrement amicale aux jeunes filles. Ce que je crois est assez vrai. Et du reste, elle et Louis avaient traduit ensemble le livre de Margaret Kennedy, La nymphe, traduit par La nymphe au cœur fidèle. Donc, ils s'étaient beaucoup intéressés à cette littérature. Et je crois qu'elle avait raison. Elle avait raison, on déchiffre un peu mieux les doutes, les tourments, les chagrins propres à cet âge, à travers les héroïnes des romans anglais.
Et pourtant, Mona Ozouf, George Eliot, comme on pourrait le dire aussi d'Henry James, votre Henry James chéri, c'est une littérature qui, au départ, peut impressionner parce qu'elle est touffue. Ce sont des gros livres, ça rentre beaucoup dans les détails. C'est peut-être pour ça aussi que George Eliot est passé de mode. Je rappelais que Virginia Woolf s'en désolait, mais George Eliot, elle a eu du succès de son temps, peut-être un succès de scandale aussi, mais en tout cas, très vite, elle a disparu, oui. Elle n'était plus citée et elle n'était plus lue.
Non, ça quand même, c'est plus vrai en France qu'en Angleterre. En tout cas, elle a eu aussi une longue période de dédain en Angleterre. Mais c'est totalement réparé depuis la Seconde Guerre mondiale, où il y a désormais des Eliotistes, comme disait Thibaudet, beaucoup de publications, des associations d'amis de George Eliot qui ont des publications régulières. Donc, c'est tout à fait réparé en Angleterre, comme le dit d'ailleurs la romancière que...
Zadie Smith, elle était à ce micro, et c'est elle qui la citait en disant « Dickens et elle, c'est indispensable quand on veut écrire un roman, voilà, et quand on aime lire les romans. »
Je ne l'ai pas écouté chez vous, mais je l'ai lu disant cela, et disant « ça passe en France désormais pour des romans ringards, et pourtant ce sont des romans dont je ne peux pas me passer. » Donc, réparé en Angleterre, mais pas du tout en France. Parce que désormais, quantité d'amis à moi, grands lecteurs cependant, et s'enquérant du travail que je faisais, m'ont dit « Ah, George Eliot, écoute, je suis désolé, j'ai rien lu de lui. »
De lui. De lui, oui.
C'est-à-dire ayant même oublié...
L'absence de S à George, oui, indique quand même en général une femme.
Voilà, donc, oui, enfin, pour les Français,
pour les Français,
le devrait. Pour les Français, le devrait. Du coup, c'est très surprenant, effectivement. Alors, probablement est-ce dû au caractère touffu des romans. Il faut y entrer. Il y a une sorte de...
Il y a un petit purgatoire au début. Un petit préambule, disons.
Il y a un préambule. Il y a un préambule au début. Il faut être disposé à y entrer. Mais une fois qu'on y est entré, on est ébloui par la richesse, la densité, l'observation, la restitution du langage de 1000 catégories sociales, très éloignées de celle à laquelle elle appartenait. Il y a une sorte de richesse et d'empathie. Et puis je trouve, et ça c'est une chose que remarquait Virginia Woolf, un goût de la vérité qui fait qu'elle ne cède pas, en tout cas elle cède peu souvent, au besoin sentimental des lecteurs d'avoir un dénouement consolant.
Effectivement, Mona Ozouf, alors je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai lu Middlemarch, que je n'avais jamais lu, je le confesse. Je savais qui était George Eliot, mais je n'avais jamais lu. Et en fait, je l'ai lu après vous avoir lu, vous, parce que vous m'avez donné envie. Ce que j'espère que tous les auditeurs ressentiront également, ce plaisir de rentrer dans un livre qu'une grande lectrice nous recommande, c'était votre cas. Et comme vous le dites, les personnages féminins de George Eliot ne sont pas des héroïnes romantiques auxquelles on peut s'identifier avec plaisir pendant un moment comme ça de romantisme échevelé. En fait, ce sont des personnes ballottées entre des sentiments divers, parfois très exaspérantes, qui, comme les jeunes filles de cette époque, sont limitées par l'absence d'éducation, et ça le soulève très clairement. Dans Middlemarch, il y a Dorothea, c'est une jeune fille de la très bonne société, qui souffre de ne pas avoir pu étudier davantage et qui rêve d'épouser Pascal. On va écouter la description de Dorothea par George Eliot dans Middlemarch.
L'idée avait désormais pénétré l'esprit de Dorothea que M. Cassobon souhaiterait peut-être la prendre pour épouse. Et la pensée qu'il le ferait l'emplissait d'une sorte de gratitude révérencieuse. Quelle bonté de la part de cet homme! Voyant, ce serait presque comme si un messager ailé s'était dressé au bord du chemin de Dorothea et lui avait tendu la main. Depuis longtemps, elle était abattue par l'incertitude qui pesait dans son esprit, comme une épaisse brume d'été, sur tout son désir de rendre sa vie puissamment efficace. Que pouvait-elle faire? Que devait-elle faire? Elle qui n'était guère plus qu'une femme à peine éclose, mais qui avait pourtant une conscience active et de grands besoins intellectuels, impossible à satisfaire par une éducation pour jeune fille, comparable aux grignotements et aux opinions d'une souris portée à l'argumentation. Douée d'un peu de stupidité et de vanité, elle aurait pu penser qu'une jeune chrétienne fortunée doit trouver son idéal de vie dans les œuvres de charité rurale, la protection du clergé pauvre, la lecture des personnages féminins de l'écriture et dans le souci de son âme, tandis qu'elle ferait de la broderie dans son boudoir personnel. Tout cela sur fond de mariage futur avec un homme qui serait moins austère qu'elle, puisque serait mêlé à des affaires impossibles à expliquer par la religion, mais pour qui on pourrait prier et qu'on exhorterait opportunément. Avec une telle nature, se débattant dans les entraves d'un enseignement étroit, enserré par une vie mondaine qui lui faisait l'effet de n'être rien de plus qu'un labyrinthe de démarches mesquines, un dédale entouré de murs et fait de petits sentiers ne menant nulle part, le résultat ne pouvait manquer de produire à autrui une impression à la fois d'excès et d'inconstance. C'est dans cette fin de l'âme que s'était jusqu'à présent déversée toute sa passion. L'union qui l'attirait était celle qui la délivrerait de son assujettissement enfantin à sa propre ignorance et lui donnerait la liberté d'une soumission volontaire à un guide qui l'entraînerait sur le chemin le plus noble. J'apprendrai tout en ce cas, se disait-elle en continuant à marcher d'un bon pas sur l'allée cavalière à travers bois. Ce serait mon devoir d'étudier afin de pouvoir mieux l'aider dans ses grands ouvrages. Il n'y aurait rien de banal dans notre existence. Les réalités quotidiennes signifieraient pour nous ce qu'il y a de plus grand. Ce serait comme d'épouser Pascal. J'apprendrais à voir la vérité à la même lumière qui permettait aux grands hommes de la voir. Et ensuite, je saurais que faire en vieillissant. Je verrais comment il serait possible de mener une vie noble, ici, maintenant, en Angleterre.
Mona Ozouf, on sait que Henry James s'est inspiré de ce personnage de jeune fille dans Middlemarch pour son portrait de femme.
Oui, Isabelle Archer.
Mais je trouve que cette Dorothea dans Middlemarch, en fait, George Eliot l'a décrit comme une jeune fille éprise de prince charmant, sauf que elle, son prince charmant, c'est le savant. Et là, elle va épouser un vieux savant désagréable. Et au fond, elle n'est pas tellement tendre avec cette Dorothea, je trouve.
Oh, hein? Je ne suis pas absolument...
Je vous vois français, le
oui,
sourcil.
Non, je ne suis pas absolument de votre avis, parce que, oui, elle décrit Dorothea avec... comme une jeune personne exaltée, qui sait très mal regarder autour d'elle, parce qu'au fond, tout ce qui l'entoure, y compris sa petite sœur... qui est moins intelligente qu'elle sans doute et moins un personnage moins intéressant, a tout de suite vu dans le savant desséché. D'abord, elle a vu l'aspect physique du vieil érudit avec des verrues poilues sur le visage et très peu de séduction personnelle. Or, malgré tout, Dorothée a 19 ans, ce qu'il faut se mettre en tête quand on lit le roman. Mais il y a de la compassion dans la description d'Eliot. Il y a comme toujours chez elle de la vérité, elle ne l'a... C'est une jeune fille exaltée, mais Eliot ne l'exalte pas. Cela étant, il y a quand même beaucoup de compassion, il y a quand même de la tendresse. Mais elle décrit, dans toute la première partie du livre, elle décrit une épouvantable défaite, qui est une défaite qui va encore beaucoup plus loin que le désastre sexuel qu'on perçoit, parce que, bien sûr, le roman est très...
Très pudique.
Très pudique, mais on comprend. Malgré tout, que le voyage de noces à Rome
n'a pas comporté de grandes révélations, s'il en a comporté une. Là-dessus, il y a même presque un doute. Mais surtout, ce que Dorothée découvre, c'est le manque total de réciprocité entre leurs deux esprits. Le manque total d'égalité, d'ailleurs, dans les rapports et de confiance. Et donc, c'est ça la vraie tragédie de la première partie du roman. Et effectivement, Dorothée ne voit pas grand-chose, ne voit rien, ne comprend rien, mais elle a beaucoup de circonstances atténuantes. C'est une orpheline. Beaucoup des personnages d'Eliot sont des orphelins ou des déshérités. Et donc, des personnages divisés qui ont à comprendre eux-mêmes ce qu'ils sont, qui ont à conquérir leur identité. Mais ça met du temps. Et ça met du temps quand on a 19 ans et qu'on n'a pas été éduqué. Elle a été élevée dans une lointaine pension suisse. On lui a appris ce qui convient aux femmes de savoir, c'est-à-dire les arts d'agrément, mais où elle n'a lu aucun grand texte. Et donc, dans cet érudit desséché, attelée d'ailleurs à une tâche qui est déjà une tâche désuète, qui est dépassée par le mouvement de la critique et de la philosophie allemande, elle est incapable de le savoir, bien entendu, et de le percevoir. Mais elle se voit associée à de grands travaux et à une vie magnifique. Je vois pas de dureté là-dedans, mais je vois la description de quelque chose qui est très fréquent dans l'existence juvénile, c'est que la jeunesse, c'est la période où chacun croit pouvoir inventer sa vie. Et ensuite, la vie qui continue oblige à quantité d'accommodements.
C'est vrai que Middlemarch de George Eliot, dont nous parlons, Mona Ozouf, est un roman assez mélancolique parce que on a de la sympathie pour certains des personnages. Il y en a beaucoup. C'est ça aussi qui est passionnant dans ce livre. C'est que il n'y a pas une héroïne et tout tourne autour d'elle. Il y a des dizaines de personnages. On s'attache à certains. Et c'est pas parce qu'on s'attache à quelques-uns qui sont rarement d'ailleurs, des personnages sympathiques parfois, et ils ont tous des ruptures, des échecs, et oui. En fait ça tient à la description, au choix par Eliot de cette société provinciale. Oui. C'est pas le haut du panier, c'est pas le tout en bas, c'est cette espèce de petite bourgeoisie qui veut jouer à la petite noblesse, ce sont des commérages, c'est une société qui vit repliée sur elle-même, dans laquelle il n'y a pas de vie privée, tout se sait, toujours, et où, comme d'habitude, tout tourne autour de l'argent.
Bien sûr. Les histoires d'héritage, on pourrait presque dire que c'est un roman sur l'héritage. Parce que d'abord, il y a au milieu du livre l'héritage d'un vieux pervers qui s'est amusé à faire des testaments bizarres, et c'est le nœud de l'intrigue. Mais il y a aussi le fait que l'héritage de ce vieil érudit qui, opportunément pour Dorothée, meurt au milieu du roman, cet héritage va être, au fond, ce qui va lui permettre de nommer en elle l'amour qu'elle a pour un petit cousin de cet homme, mais qu'elle n'aurait probablement pas nommé comme tel si le défunt lui-même ne lui avait pas désigné avec un codicille infamant où il lui lègue toute sa fortune, sauf au cas où elle épouserait le petit cousin en question, qu'elle finit du reste par épouser. Mais mélancolie, là, vous avez prononcé le mot roman mélancolique, c'est en fait un thème qui a été beaucoup traité, et beaucoup traité d'ailleurs par certaines lectrices féministes de George Eliot, qui lui ont reproché de n'avoir pas donné à son héroïne la chance qu'elle s'est donnée elle-même, en écrivant, en se fabriquant. En se donnant ce pseudonyme, elle s'est affranchie elle-même de l'ordre des pères, et elle s'est fabriquée elle-même. Et donc elle n'a pas donné à ses héroïnes, disent ses critiques, les chances qu'elle s'était elle-même données. Je trouve ce reproche injuste, et je, à la limite je ne le comprends même pas, parce que d'abord une romancière n'est pas tenue de décrire ce qu'elle vit elle-même, et au contraire ce qui frappe chez Eliot, c'est le sens de l'observation qui lui permet de créer des personnages extrêmement variés, différents, à différentes strates de la société. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est que Middlemarch est un monde provincial où tout se sait, où tout se guette, où tout s'épie. C'est la société de la rumeur et du commérage. Il y a effectivement ça qui est tout à fait frappant dans Middlemarch, mais Il y a quelque chose aussi, c'est qu'on est au bord d'un monde nouveau. On est en train de dire adieu à un monde ancien, où ce qui compte, c'est la richesse terrienne, et un monde nouveau, qui est celui du commerce, de l'industrie, du capitalisme. Et il y a cette sorte d'hésitation chez les personnages eux-mêmes qui ne savent plus très bien où ils sont, et qui au fond ajoutent à leur division intérieure cette sorte de perplexité devant une société où tout bouge, où tout est en train de basculer.
It's all there in the Gospels. The Magdalene girl comes to pay her respects, but her mind is a whirl when she finds the tomb empty. The stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight. There's this solitary figure in a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill in an almighty hurry. Aye, but she might catch him still. Tell me, where are you going, Lord, and why in such haste? Now don't hinder me, woman, I've no time to waste. Or they'll launch in a boat on the morrow at noon, and I have to be there before daybreak. Oh, I canna be missing. The lads will expect me. Why else would the good Lord himself resurrect me? For nothing will stop me. I have to prevail. Through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale, may the angels protect me if all else should fail. When the last ship sails, or the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Mona Ozouf, dans Middlemarch, George Eliot dépeint le monde qui l'entoure. Elle fait presque œuvre d'historienne, de journaliste, puisqu'elle nous parle beaucoup de la politique de l'époque, les débats entre les Whigs et les Tories, le moment où ces petits nobles qui s'étaient tenus à l'écart de ces débats vulgaires commencent à entrer en politique et essayent d'améliorer vaguement le sort de leurs électeurs. Il y a des débats très intéressants. Et elle aborde l'irruption du train dans les campagnes. Oui. Et puis, il y a un grand sujet qu'elle développe énormément, c'est la vieille médecine et la médecine qui arrive, plus rationnelle, qui se méfie des potions qu'on empile sur la table des malades. Et il y a de temps en temps des débats entre les habitants de Middlemarch dont George Eliot nous rend tout le sel.
Un jour où M. Hackbutt en parla entre hommes à la fin d'un grand dîner, M. Toller déclara en riant
« Alors, Dibitz va pouvoir se débarrasser de ses drogues éventées. » J'aime beaucoup le petit Dibitz. Je suis content qu'il ait cette chance.
Je vois ce que vous voulez dire, Toller, dit M. Hackbutt, et je suis entièrement de votre avis. Je saisirai la première occasion de m'exprimer en ce sens. Un membre du corps médical doit garantir la qualité des drogues qu'absorbent ses malades. Tel est le fondement du système de rémunération qui a prévalu jusqu'à présent. Rien n'est plus déplaisant que cet étalage de réformes lorsqu'on n'aboutit à aucune amélioration réelle.
Vous parlez d'étalage, Hackbutt, dit ironiquement M. Toller. Je ne vois pas pourquoi. On ne peut guère faire étalage de pratiques auxquelles personne ne croit. Il ne s'agit nullement de réforme. La question est de savoir si le bénéfice sur les drogues sera payé au médecin par le droguiste ou par le patient, et s'il y aura une rémunération supplémentaire au titre de la visite.
Oui, bien sûr. Encore une de vos sacrées versions nouvelles de la vieille fumisterie, dit M. Halley, passant la carafe de vin à M. Wrench. M. Wrench, sobre en général, buvait souvent plus de vin que de raison quand on l'invitait, et du coup devenait encore plus irritable. Pour ce qui est de la fumisterie, Halley, dit-il, le mot est trop facile à lancer à tout bout de champ. Ce à quoi je m'oppose, c'est la façon dont les membres du corps médical gâchent leur propre métier et déclenchent des protestations dans tout le pays, comme si un omnipraticien qui fournit des médicaments ne pouvait pas être un gentleman.
Je rejette cette insinuation avec mépris. Moi, je vous dis que la faute la plus vulgaire qu'on puisse commettre consiste à apparaître parmi les membres de sa profession en pratiquant des innovations qui constituent une calomnie contre leur méthode traditionnelle. Voilà mon opinion. Et je suis prêt à la défendre contre tous ceux qui me contredisent.
La voix de M. Wrench devenait extrêmement pointue.
Bonnausouf, George Eliot pratique une ironie féroce et elle est extrêmement drôle quand elle dépeint justement ces conversations stupides entre des gens qui montrent qu'ils connaissent des choses alors que ce sont juste des vieux réactionnaires. Et vous dites de George Eliot assez drôlement que c'était, elle, une conservatrice de progrès. Qu'est-ce que ça veut dire, une conservatrice de progrès?
Ça, je crois que ça traduit la division qui était en elle aussi, parce que elle peint des personnages divisés. Bon, l'un de ces personnages, du reste, peut-être le plus frappant du livre, est ce médecin progressiste qui arrive avec de nouvelles méthodes et qui plaide pour une médecine infiniment plus rationnelle que celle qu'évoque le passage qui vient d'être lu.
Et qui va être démoli par ses concitoyens.
Et qui va être, la vraie défaite du livre, déchirante du reste. Mais elle-même était une femme de progrès dans la mesure où elle était totalement impliquée dans le mouvement, disons, du 19e siècle. Tout le 19e siècle a pensé être en marche vers une humanité plus heureuse et plus libre. Et elle est pleinement, elle participe pleinement à ce mouvement. Elle lit Darwin avec admiration. Elle a lu la critique des textes sacrés chez les Allemands, etc. Elle est dans ce mouvement-là. Mais c'était une femme fragile, anxieuse, et qui tenait par toutes ses fibres à sa famille, à ses entours, à la maison où elle avait vécu, au paysage de son enfance, alors qu'elle aura une vie de rupture. Et donc elle est elle-même un personnage profondément divisé. Progressiste en idées, conservatrice dans les sentiments. Quelqu'un qui plaide pour la liberté, mais qui tient à l'héritage, entendons par là l'héritage culturel et affectif, qui ne peut pas rompre avec ce qu'elle a vécu, et quelqu'un qui croit profondément, comme d'ailleurs son héroïne du Moulin sur la Flosse, que toute rupture dans l'existence est une embardée détestable, que la durée est une valeur, et que la continuité des vies est un bonheur. Voilà, je crois, qui fait la profonde division de son être et qu'elle a légué à certains de ses personnages. Et ce personnage de médecin, pour y revenir, est à la fois un intellectuel de haut niveau et un handicapé affectif, et qui paie cela de la défaite de sa vie.
En même temps, Mona Ouzouf, vous dites donc que George Eliot était attaché à son environnement social aussi, et pourtant elle l'a défié d'une manière incroyable, puisque comme George Sand, elle a écrit ce qui était déjà scandaleux pour une femme, mais elle a vécu maritalement avec un homme marié par ailleurs.
Bien sûr.
Et elle ne s'en cachait absolument pas, elle disait même que cette cohabitation était un véritable mariage.
Oui, elle avait d'ailleurs appris cela très jeune en lisant Feuerbach. Elle avait appris à admirer un mariage qui est un contrat entre des volontés libres et qui n'est pas du tout précisément lié à un héritage de coutumes ou de traditions. Mais elle l'a payé pendant un long moment de l'ostracisme social. Non seulement la rupture avec sa famille, à laquelle elle tenait beaucoup, à ce frère en particulier, qui ne l'a plus jamais revu de sa vie. Et puis elle tenait infiniment à ses amis. Or, à partir du moment où sa liaison avec cet homme s'est officialisée, où le bruit s'en est répandu, les amis se sont mis à s'entr'écrire les uns les autres pour dire surtout ne l'invitez pas. Gardez-vous de l'inviter, vous allez déshonorer les femmes de votre famille et même au-delà, vous allez déshonorer le sexe féminin tout entier.
Et pourtant, c'était une féministe convaincue. Alors, pour son époque, qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, elle n'était pas pour le droit de vote des femmes, elle n'était pas une suffragette, mais c'était une véritable féministe. Et d'ailleurs, quasiment à toutes les pages de Middlemarch ou de ses autres livres, on sent qu'il y a une critique féroce de la façon dont les hommes perçoivent les femmes, leur assignent un rang et leur dénient le droit à toute étude. On va écouter le portrait de Monsieur Casaubon, l'horrible vieux barbon qui va épouser Dorothea, et c'est plutôt assez drôle.
Monsieur Casaubon, comme on pouvait s'y attendre, passa une bonne partie de son temps au manoir au cours des semaines suivantes. Et l'obstacle que causèrent ses fiançailles à la poursuite de son grand œuvre, la clé de toutes les mythologies, lui fit naturellement attendre avec d'autant plus d'impatience le terme bienheureux de cette période. Mais cet obstacle, il s'y était délibérément exposé. Puisqu'il avait décidé que le moment était maintenant venu pour lui d'orner sa vie des grâces d'une compagnie féminine, d'illuminer par le jeu de la fantaisie féminine les ténèbres que la fatigue risquait de faire peser sur les intervalles d'un travail ardu, et de s'assurer, tandis qu'il était dans la force de l'âge, le réconfort des soins féminins pour les années de son déclin. Il résolut donc de s'abandonner au flot du sentiment. Et fut peut-être surpris de découvrir la profondeur extrêmement faible de ce ruisselet. De même que dans les zones désertiques, le baptême par immersion ne peut s'accomplir que symboliquement, de même M. Casaubon s'aperçut-il qu'en guise de plongée, son cours d'eau lui permettait tout juste une petite aspersion. Il en conclut que les poètes avaient grandement exagéré la force de la passion masculine. Néanmoins, il remarqua avec plaisir que Mademoiselle Brooke montrait une affection ardente et soumise qui promettait de correspondre à ses plus agréables prévisions touchant le mariage. L'idée lui avait une ou deux fois traversé l'esprit que peut-être il y avait chez Dorothea quelque imperfection pour expliquer la modération de son propre abandon. Mais il n'était pas en mesure de discerner cette imperfection, ni de se représenter une femme qui lui eût plu davantage. Il n'y avait donc pas moyen de se rabattre sur une explication autre que les exagérations de la tradition humaine.
Et merci à Yael et Ladad pour ces lectures formidables de Middlemarch. On l'a entendu dans cette page lue de George Eliot que, en fait, elle ne se trompait pas du tout sur la place des femmes, la place des hommes et cette vision qu'ont les hommes de son époque qui veulent des femmes, je la cite, incolores, informes et résignées d'avance à tout.
Oui, et du reste, il y aurait quelque chose d'intéressant à remarquer que qui sont les trois hommes qui réussissent leur vie dans Middlemarch ? Fred Garth, qui épouse Mary.
Qui fait quand même un jeune écervelé au départ.
Qui est un jeune écervelé, mais qui est un bon garçon.
Oui.
Il y a Will, quand il épouse Dorothea. Et puis, il y a Monsieur Garth lui-même, avec la femme qu'il a épousée et qui est un des personnages secondaires du livre, mais formidable. Attachant. Mmh. Qui est à la fois une sorte de femme qui sait tout faire, qui pétrit sa pâte à tarte à la table de la cuisine, mais en même temps fait la leçon de grammaire ou d'histoire romaine à ses enfants assis au bout de la table.
Et c'est la seule famille véritablement heureuse du livre.
C'est la seule famille heureuse du livre. Et pourquoi est-elle la seule famille heureuse ? C'est au fond que ce sont les seuls à ne pas nourrir d'illusions chimériques sur ce que la vie leur réserve. Mary est une femme ordinaire. Elle a un physique ordinaire, simplement. On ne la remarque pas, elle sait tout de suite que la vie ne lui réservera pas de choses merveilleuses qu'elle n'est pas elle-même préparée ou pour lesquelles elle n'est pas elle-même travaillée. Et donc, c'est vrai que toute la famille, on peut dire, est heureuse. Cela dit, et là peut-être nous ne serons pas absolument d'accord, vous et moi, quelle est l'héroïne du livre, Mary ou Dorothea ? Vous savez que la question a occupé quelques critiques. Et il y a beaucoup de critiques qui ont dit non, la véritable héroïne du livre, c'est Mary.
Oui, ben c'est possible.
C'est l'héroïne morale du livre. Moi, je dirais pourtant que ça n'est pas la vraie héroïne du livre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne bouge pas. Mary n'évolue pas. Elle est, dès la prime adolescence, elle est ce qu'elle sera toujours. Quelqu'un d'intelligent, de pragmatique, qui ne s'illusionne jamais, qui ne se raconte pas d'histoire. Mais Mary, elle n'évolue pas dans ses sentiments. Elle aime Fred dès le jour où Marmot Le garçon lui a passé un anneau de parapluie au doigt en guise de bague de fiançailles, et elle lui reste fidèle jusqu'au bout, puisqu'on les retrouve à la fin du livre tous les deux vieillissants, émouvants, mais pas changés. Or, le roman est quand même l'histoire de quelqu'un qui change. Or, Dorothée change. Elle change pourquoi ? Elle change parce qu'elle a souffert. C'est-à-dire qu'elle est d'abord une sorte d'innocente, en effet, c'est le portrait que vous avez tracé, mais elle devient beaucoup plus consciente d'elle-même, beaucoup plus consciente de ce que la vie peut lui réserver, mais au prix de la douleur, après être passée par l'épreuve de la douleur. Donc pour moi, la véritable héroïne, c'est quand même Dorothée.
Oui, c'est vrai. Et la preuve, c'est qu'Henry James était fasciné par ce personnage et qu'il nous a pondu ce chef-d'œuvre absolu qu'est Portrait de femme. Mais alors justement, en refermant, alors j'ai pas regardé, mais il se doit faire, oui, plus de 1000 pages hein, oui, pour Middlemarch.
1000 pages.
Je me disais, bon, c'est bien, ça donne envie sûrement à ceux qui nous écoutent d'ouvrir ce livre qui est formidable. Mais en même temps, Mona Ozouf, et d'ailleurs vous le remarquez à la fin de votre essai que vous lui avez consacré, il faut du temps, du silence, oui, de la concentration, toutes choses qu'aujourd'hui nous sommes peu nombreux à partager.
Ça n'est pas seulement Middlemarch qui paie le prix de tout cela, mais c'est la lecture en général. C'est qu'effectivement, la lecture réclame des biens qui sont devenus luxueux et qui sont le silence, oui. Peut-être aussi un certain ennui. On pourrait aller jusqu'à
faisons l'éloge de l'ennui pour jusqu'à plaider dans l'éducation des enfants.
Voilà, jusqu'à plaider pour l'ennui, parce que l'ennui ouvre le chemin de la rêverie. Tandis que on pourrait dire que l'assaut d'images tue l'imagination. C'est ça le véritable drame de la lecture aujourd'hui. Ça ne tient pour moi pas du tout aux querelles sur les méthodes, ça n'a aucune importance. Ce qui donne envie de lire, c'est comme toujours, c'est le bon maître, c'est le bon instituteur, comme c'est le bon professeur qui illumine une année ingrate de lycée.
Mais ce qui donne aussi envie de lire, cher Mona Ozouf, ce sont les bons écrivains. Et votre livre, L'autre Georges, à la rencontre de Georges Eliot, qui est paru chez Gallimard, donne envie de lire, bien sûr, heureusement. J'ai lu Middlemarch en ayant coupé la télévision, la musique, le bruit, tous les soirs dans mon lit, et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Merci à vous, Mona Ozouf. Je voudrais signaler aussi votre modestie dût-elle en souffrir, que va paraître le mois prochain, le 13 février exactement, aux éditions Flammarion. Oui, Flammarion Savoir, Mona Ozouf, portrait d'une historienne, sous la direction d'Antoine Debecq et de Patrick Deville. Merci à vous, Mona Ozouf.
Merci, Kathleen.
Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.